Donc nous serons dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Nous continuons dans cette série sur Matthieu, et en particulier le sermon sur la montagne. La semaine passée, nous avons vu Matthieu 5, verset 3, pardon, ça c'était la semaine passée, et ce soir donc on sera dans Matthieu 5, verset 4. Et je vais juste relire ces deux versets ensemble avant de commencer. Donc Matthieu chapitre 5, verset 3 et 4, qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et comme nous avons vu la dernière fois avec papa, Jésus commence son message avec cette série de bénédictions, et avec une bénédiction pour les gens de l'époque qui étaient les gens pas bien, on pourrait dire. Ceux qui écoutent Jésus, ici au sermon sur la montagne, sont surtout des gens qui sont l'objet du mépris des dirigeants spirituels du peuple. Et Jésus commence en annonçant une bonne nouvelle pour ceux qui se voient comme des pauvres en esprit, des gens qui se voient comme étant en crise spirituelle. Car c'est la réalité. Ils n'ont rien à offrir à Dieu sur un plan spirituel. Et pourtant, Dieu dit que le royaume est pour eux. Et donc, nous lisons la suite dans Matthieu 5, verset 4, qui dit maintenant « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et en lisant cela, on pourrait dire, bon, c'est peut-être la béatitude la plus contradictoire du lot. Il me semble que c'est le prédicateur anglais John Stott qui dit, on pourrait traduire ça « heureux les malheureux » et il dit quelle expression particulière, « heureux les malheureux ». Mais par cette béatitude qui nous fait réfléchir, qui est difficile pour nous, Jésus rappelle deux réalités importantes que nous allons voir. Premièrement, il va décrire la situation physique et spirituelle de la majorité de ceux qui l'écoutent, en fait de tous ceux qui l'écoutent, surtout du peuple d'Israël. Mais deuxièmement, il rappelle que Dieu est à l'œuvre dans ce monde déchu, en rappelant une espérance à venir. Et donc Jésus ici enseigne avec une perspective future, en décrivant la réalité actuelle qui est difficile. Et ce qui est non important, donc ce n'est pas simplement la situation actuelle, mais le fait que Dieu prépare quelque chose pour l'avenir. Et donc on va simplement regarder les deux parties de cette expression, parce qu'on a déjà parlé de cette expression « heureux » ou « béni » que papa a décrit avant. Mais il dit « heureux ceux qui pleurent ». Donc qui sont ceux qui pleurent ici? Dans certaines traductions, si vous aimez bien l'ancienne version Louis II, on trouvera « heureux les affligés, car ils seront consolés ». Mais sinon, la plupart de nos traductions francophones, c'est vraiment cette idée de « ceux qui pleurent ». Et pourtant, quand on lit le texte de l'Ancien Testament en particulier, qui utilise cette même expression, nous trouvons que c'est « ceux qui pleurent » principalement dans un contexte de deuil et de perte. C'est « ceux qui pleurent » parce que quelqu'un est mort, un proche, un ami, un membre de la famille, et donc ils sont en train de mener le deuil. Dans l'Ancien Testament, on verra ça, par exemple, avec Abraham, lorsque Sarah meurt. Et on dit, il mène le deuil et il pleure, et c'est cette même expression ici. Lorsque Jacob pense que son fils Joseph est mort, à bien d'autres reprises aussi. Et dans Marc chapitre 16, lorsque les femmes vont au tombeau, elles sont en train de pleurer dans ce contexte de deuil de nouveau. Et donc, certains disent, peut-être c'est un peu mieux de traduire ici, « Heureux ceux qui mènent le deuil, car c'est eux qui seront consolés. » Et en lisant cela, certains posent la question et disent, « Bon, est-ce que Jésus parle vraiment à des gens qui sont en train de pleurer dans le deuil ?» De nouveau dans une culture où, bon, si nous allons à des obsèques, d'habitude tout le monde n'est pas en train de pleurer à haute voix, très fort. Mais dans la culture de l'époque, c'est comme ça qu'on menait le deuil. Hein. On n'était pas très discret avec ses émotions, mais on les exprimait d'une manière très forte. Et de nombreux théologiens pensent qu'il ne faut pas prendre Jésus à la lettre ici. C'est-à-dire que Jésus n'est pas vraiment en train de s'adresser à ceux qui sont dans le deuil, hein, parmi là, peut-être parce qu'ils ont perdu un fils ou une fille ou un parent, mais qu'il faut le prendre dans un sens plus spirituel, ou peut-être dans cette idée de comprendre l'alliance entre Dieu et Israël. Et donc c'est des pleurs au sujet de l'alliance de Dieu et de ses promesses qui attendent. Et comme nous le verrons, il y a effectivement cette dimension spirituelle et d'alliance qui est là. Mais je crois que ce serait une grosse erreur de laisser de côté, hein, la réalité, physique, émotionnelle de la vie de tous les jours et de dire, que Jésus ne parle pas de cela. Sinon, on serait obligé de dire, heureux ceux qui mènent le deuil, je ne parle pas, bien entendu, de ceux qui mènent vraiment le deuil. Et je ne crois pas que ça, c'est juste. Et peut-être aussi, bon, les expériences de cette semaine, de la semaine qui précède aussi, où j'ai une amie très proche avec qui j'étudie la Bible très régulièrement, qui a perdu sa maman. Cette semaine, avec le décès de Doyle Key aussi. Bon, on est entouré de deuil, on ressent le deuil aussi. Et je crois que ce que Jésus dit, là, c'est un message pour nous aussi. Dans Luc, chapitre 6, nous avons le sermon sur la plaine, où Jésus prêche beaucoup des mêmes choses ici. Et Luc rapporter des paroles de Jésus un peu différentes, et sans doute Jésus variait de temps en temps comment il enseignait, mais plutôt que dire « heureux les pauvres en esprit », il dit « heureux les pauvres », avant de critiquer les riches. Il va donner différentes expressions, mais celle-ci, c'est exactement la même. Il dit « heureux ceux qui pleurent » ou « heureux ceux qui sont dans le deuil ». Et Jésus, je crois, reste ici très, très concret. Jésus lui-même a pleuré et a mené le deuil, vous savez. Il a pleuré lorsque Lazare était mort au tombeau. Et malgré le fait qu'il savait qu'il pouvait ramener ceux qui étaient morts à la vie, il est frappé par cette souffrance. Et Jésus voit ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans la tristesse pour diverses raisons, et il se soucie réellement d'eux. Et donc les bénédictions de Jésus s'adressent à eux aussi. Pour les hommes et femmes israélites qui l'écoutaient à l'époque, pourquoi est-ce qu'on pourrait pleurer? Bon, ils vivaient dans un pays sous occupation étrangère, écrasé par les forces ennemies, forcés à payer de lourds impôts, sans liberté, dans le danger tous les jours, aussi de passer dans les moments de répression plus dangereuses. Ils vivaient à une époque où la mortalité enfantine était immense. On perdait un très très grand nombre de ces enfants avant qu'ils arrivent à l'âge de 15 ans. C'était une époque de pauvreté extrême aussi pour une grande majorité de la population. Et ils vivaient dans un monde où les chefs étaient surtout des gens corrompus et injustes. Et on se souvient dans Matthieu chapitre 2, que fait le roi d'Israël et le père de celui maintenant qui règne sur eux en Galilée? Bon, il a massacré, le roi Hérode a fait massacrer les enfants de Bethléem et de la région alentour. Et voilà dans le monde dans lequel il vivait. Et donc beaucoup de personnes dans la souffrance physique et matérielle et dans le deuil. Et Jésus, en s'adressant à eux, dit, il y a une consolation qui vient. Et pour nous, aujourd'hui, Jésus continue à annoncer une consolation. C'est certain, nous vivons dans l'époque la plus confortable de l'histoire de l'humanité, à part peut-être le jardin d'Éden. Mais pourtant, nous vivons avec la tristesse et le deuil aussi. Nous vivons avec la tristesse de la mort et des séparations. Et avec la perte de Doyle, par exemple, pour ceux qui sont à Genève, pour notre famille aussi, c'est un moment de grande tristesse, même si nous avons l'espérance aussi. La souffrance des maladies, les souffrances physiques continuent aujourd'hui. L'injustice aussi. Et dans un monde qui vit sans Dieu, il y a aussi toutes les souffrances spirituelles qui viennent d'une vie qui n'a pas de sens. Et la souffrance, d'une vie sans sens. La souffrance liée au regret aussi, pour les relations brisées, les mauvaises décisions, les péchés sans perspective de pardon, qu'entendent de personnes dans le monde. Et tous ceux qui pleurent ont besoin de consolation. Et ils ont besoin qu'on reconnaisse leurs larmes, mais ils ont aussi besoin de consolation. Et Jésus annonce l'accès à une consolation qui vient de Dieu. Et donc, qui sont ceux qui pleurent? Bon, c'est ceux qui sont affligés par les divers problèmes, tristesse et deuil de la vie qui sont là à cause du péché. Et à eux, Jésus dit, donc, il y a une consolation qui vient de la part de Dieu. Mais de nouveau, il y a une dimension plus profonde aussi, parce que Jésus n'était pas un pur matérialiste, comme nous le savons. Jésus s'adresse à un besoin spirituel chez le peuple. Et quand Jésus vient comme Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la venue du royaume de Dieu, mais aussi la repentance vous savez. Et qu'est-ce que c'est la repentance? Bon, c'est un changement radical de pensée et de comportement vis-à-vis de Dieu. C'est se remettre dans la conformité à la volonté de Dieu. Et quand Jésus a parlé des pauvres en esprit, il parle de ceux qui reconnaissent leurs besoins spirituels. C'est ceux qui savent faire un constat correct au sujet de leur vie, de leur état spirituel. Et ils ont besoin de Dieu. Mais ceux qui pleurent, il y a une différence là aussi, n'est-ce pas? Parce que ceux qui pleurent, c'est ceux qui voient leur état spirituel, ceux qui voient l'état spirituel du monde, dont le péché est séparé de Dieu, et qui sont affligés, qui sont dans la tristesse à cause de cela. Leur péché leur brise le cœur. Bon, Jésus dit à ces gens-là qui sont brisés par leur propre péché qu'il y a une consolation de la part de Dieu qui vient. Cela nous fait penser à tout plein d'exemples dans la Bible, mais à Luc chapitre 7, c'est celle qui est l'exemple le plus frappant pour moi. C'est quand Jésus est dans la maison d'un pharisien. Et nous lisons dans Luc 7, les versets 37 et 38 ceci. « Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller des larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. » Bon, c'est une femme pécheresse. Et tout le monde sait que c'est une femme pécheresse. Et elle le sait aussi. Mais elle vient à Jésus tout de même. Mais pas en se disant, bon, c'est Jésus, il va m'accepter tel que je suis. Ou c'est Jésus, il me doit bien le pardon. Ou c'est Jésus, bon, il a pas de morale à me faire. Non, elle vient avec les larmes. Et elle répand ses larmes sur les pieds de Jésus. Et puis ses cheveux qui l'essuient, le parfum qu'elle répand sur ses pieds. Mais elle vient avec cette attitude de cœur brisé et de deuil spirituel. Voilà l'attitude aussi, je crois, que Jésus décrit ici. Le frère de Jésus, Jacques, dit dans Jacques chapitre 4, verset 9, « Reconnaissez votre misère, en parlant du péché dans la vie de certains chrétiens. Menez deuil. Pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Et donc, il y a absolument cette dimension spirituelle. Ceux qui pleurent à cause du péché dans leur propre vie, ceux qui pleurent aussi parce qu'ils regardent le monde déchu, le monde plein d'injustice et de mal, et ne sont pas indifférents, mais ont le cœur brisé. Ces gens-là voient juste. Et ils viennent à Dieu donc avec humilité. Et ils sont heureux parce que Dieu peut accepter un cœur pareil. Et ça, c'est pas Jésus qui nous l'a révélé. Hein. Ça fait toujours partie de qui est Dieu. Dans le psaume 51, le verset 19, David décrit le cœur de celui qui est pardonné. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne les dédaignes pas. » Bon, qui sont ceux qui pleurent? C'est ceux qui voient juste et ceux qui ont le bon sentiment de cœur. Que le péché ne laisse pas indifférent. Si nous péchons, et nous péchons, et pour nous, ça nous est égal. Si on dit, bon, j'ai péché, mais je suis baptisé en Christ, il me doit bien le pardon, et je continue ma vie. Cela n'est pas une attitude qui rend gloire à Dieu. Ce n'est pas une attitude qui va amener le réconfort dans le pardon de Dieu. Si nous voyons le péché, le mal et toutes ses conséquences dans le monde, et notre but c'est soit de l'ignorer, soit même d'être irrité par tout ce péché autour de nous, plutôt que d'avoir le cœur brisé, bon, nous n'avons pas un cœur qui correspond à celui de Dieu. Et nous fermons de nouveau la porte à la consolation de Dieu. Mais à ceux qui pleurent à cause du mal et d'un cœur sincère, en reconnaissant le besoin de Dieu, bon, là il y a une joie et une promesse qui viennent. Et lié à ça, quand même, il y a quelque chose de particulier pour les Juifs à qui Jésus s'adresse ici. Où ces deux points se rejoignent, cette souffrance physique et cette souffrance spirituelle. Et cela revient au langage qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, le langage de deuil et de consolation. Parce que pour Israël, à ce moment-là, au niveau de l'alliance avec Dieu, ils sont en train de vivre une situation désespérée en tant que nation. En tant que le peuple de Dieu. Dieu avait promis de rétablir Israël. Il avait promis d'envoyer son roi à l'image du roi David. Il avait promis que toutes les nations verraient son peuple plein de gloire. Il avait promis que le descendant de David régnerait toujours sur le trône. Il avait promis toutes ces choses, et pourtant, qu'est-ce que le peuple vivait jour après jour ? Oppression, souffrance, hypocrisie spirituelle des chefs. Il souffrait aussi de n'avoir pas un roi davidique sur le trône, mais c'est l'empereur et c'est Hérode. C'est eux qui règnent. Et donc, ils vivent dans un deuil pour Israël. Et c'est un langage très clair qui vient de l'Ancien Testament. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples, mais un seul, c'est Jérémie 14, le verset 2, où nous lisons « Juda est dans le deuil. Ses villes sont épuisées, sombres, abattues par terre, et les cris de Jérusalem s'élèvent. » En décrivant le peuple de Dieu sous la coupe de jugement, du jugement divin. Ils disent « Bon, ça, c'est le deuil du peuple. » Les pleureurs, ici, sont ceux qui reconnaissent la souffrance actuelle du peuple et qui attendent que Dieu intervienne selon ses promesses. Et ils souffrent de leur attente. Et Jésus s'adresse à un peuple opprimé qui désire la délivrance, tant sur le plan spirituel que matériel. Et voici la bonne nouvelle. C'est que quand Jésus vient, il est lui-même la consolation de Dieu. Siméon, on se souvient de Siméon, n'est-ce pas ? Il attendait autour du temple que Dieu garde ses promesses. Et voici comment Luc le décrit dans Luc chapitre 2, le verset 25. « Voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » Bon, Siméon attend la consolation. Il est en train de porter le deuil pour son peuple. Mais il va voir la consolation. Parce que lorsque le petit enfant Jésus est amené au temple, il voit celui que Dieu avait promis. Et il voit la consolation. Jésus est celui qui vient pour sauver son peuple. Il est celui qui vient pour accomplir les promesses de Dieu. Et donc, lorsque Jésus lit les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, il va dire « les jours sont accomplis en lui-même ». Dans Jérémie 31, verset 13, nous avons la promesse de Dieu au sujet donc de la venue du royaume et de la nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 13. « Alors la Vierge se réjouira à la danse, les jeunes hommes et les vieillards également. Je changerai leur deuil en gaieté et je les consolerai. Je les réjouirai après leur tourment. » Lorsque Jésus vient, il vient en tant que celui qui est la consolation. Et juste pour être clair, que Jésus, il pense à lui-même, pas seulement un jour, tout ira mieux, mais lui-même est la consolation. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 15, Jésus parle de la question du jeûne. Pourquoi est-ce que ses disciples ne jeûnent pas? Et sa réponse est assez intéressante. Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Mais dit, c'est pas le moment maintenant, je suis ici. Ce n'est pas le moment de porter le deuil. Jésus, la consolation d'Israël, est arrivé. Et en Jésus, soyons certains, nous trouvons l'accomplissement des promesses de Dieu pour son peuple. Lorsque nous voyons, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, et nous voyons cette attente de consolation, de joie, de délivrance, bon, Jésus dit, c'est moi la réponse à cela. Je suis le consolateur qui vient. Mais ça continue, n'est-ce pas? C'était pas juste pour les Juifs à l'époque. Comme nous avons vu, ceux qui pleurent parce qu'ils perçoivent correctement leur situation spirituelle, leur besoin de Dieu, ceux qui voient clairement la déchéance spirituelle du monde, seront consolés par le pardon de Dieu en Christ. Et Jésus offre le pardon et la rédemption à ces gens-là. Luc chapitre 7, le verset 48, c'est la fin de l'histoire de la femme qui vient mouiller les pieds de Jésus de ses larmes. Jésus dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et ses larmes l'ont mené jusqu'au pardon de Dieu en Jésus-Christ. Et elle est donc heureuse, parce que ses pleurs ont été, son deuil est consolé par le pardon de Dieu. Un deuil réaliste, une tristesse qui vient d'une reconnaissance de notre péché, si elle est orientée vers Dieu avec une demande de pardon, mène à la vie, mène à la consolation et à la joie. Certains ont cette image de la foi en Christ, du christianisme. Bon, c'est une religion moralisatrice. Le but, c'est qu'on se sente mal pour tous les péchés qu'on fait, et puis on vit dans la tristesse. Mais ça, ce n'est rien comprendre à la tristesse qui vient de Dieu. Parce que ce que Jésus dit, c'est que ceux qui voient leurs péchés et viennent à Dieu avec tristesse et avec un cœur brisé auront la joie et ils auront le réconfort de Dieu parce que Dieu pardonne sans mesure pour ceux qui demandent avec un cœur brisé et contrit. Paul dit aux chrétiens de Corinthe dans 2 Corinthiens 7, verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. » Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dieu a des attentes pour nous. Dieu nous appelle à la sainteté et non pas une vie polluée par le péché. Et nous devons avoir le cœur brisé par notre péché. Mais c'est pour que cela mène à la vie, à la consolation de Dieu et à la joie. Si nous rejetons ce que Christ nous offre, nous disons « bon, je vais vivre ma vie à ma manière », il ne faut pas s'imaginer que nous vivrons sans regret, sans conscience du mal en nous. Mais il n'y aura pas de solution qui amène la joie et le réconfort. Ça, c'est la tristesse qui vient du monde, n'est-ce pas? Mais Jésus offre une tristesse à ceux qui ont une tristesse qui vient de Dieu, la consolation, le pardon complet en lui. Et finalement, il y a une parole ici pour ceux qui sont dans le deuil et dans la souffrance tout à fait normale, on va dire, de notre vie sur terre ici. Il y a un message pour ceux qui ont perdu ce qu'ils aiment. Il y a un message pour ceux qui souffrent psychologiquement, psychiquement, physiquement, tous les jours dans ce monde. C'est que Jésus vient pour nous consoler même dans ses douleurs et ses difficultés. Quand on regarde tous les exemples de miracles que fait Jésus lorsqu'il vient en Juda, en Galilée, et dans les autres territoires. Tous ceux qui sont affligés sur le plan physique, qu'est-ce que Jésus fait pour eux? Bon, il est guéri. Et bien sûr, c'est un signe de la guérison spirituelle que Jésus offre. En même temps, il a compassion de ces gens qui sont dans le deuil, de ces gens qui pleurent à cause des souffrances. Et Jésus amène une guérison pour eux. Et les miracles de Jésus sont un signe du pardon qu'il offre, mais aussi un signe de l'avenir qui est réservé pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire une vie libérée de la mort, de la souffrance, de la tristesse et du déshonneur. Il y a une consolation à savoir que en Christ, nous avons un avenir certain. Nous attendons la résurrection avec Jésus. Pas une résurrection pour vivre de nouveau cette vie de difficultés, de déceptions, de tristesse et de deuil, mais pour vivre une vie parfaite, pleine de joie et de victoire. Paul veut consoler les chrétiens de Thessalonique. Et vous connaissez ce passage, hein, mais c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 à 18. Et voici, il décrit notre espérance pour l'avenir. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bon, les chrétiens de Thessalonique pleurent. Ils sont dans le deuil. Parce qu'ils ont perdu des frères ou des sœurs qui leur sont proches, qui leur tiennent à cœur. Et Paul dit non, nous avons une consolation, même si nous pleurons. C'est que nous serons ensemble, ceux qui sont morts avant nous, et nous qui serons encore là, si nous ne mourrons pas avant la venue du Seigneur, nous serons avec lui pour toujours, dans la victoire. Et il y a une consolation pour ceux qui pleurent, car pour ceux qui sont morts en Christ, nous savons que nous allons nous retrouver un jour. pas juste les uns les autres, mais avec Christ, avec la joie éternelle dans sa présence. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bon, est-ce que nous sommes ceux qui pleurent pour le mal dans ce monde et dans nos propres vies? Ou est-ce que le péché nous laisse indifférents? Bon, Satan veut qu'on soit indifférent, hein, du péché. Soit par un cœur endurci, hein, par habitude ou par refus de se repentir, soit juste parce qu'on se laisse distraire par toutes les autres choses de la vie qui nous empêchent de penser à notre relation avec Dieu, à ce que Dieu demande de nous. Est-ce qu'on remplit nos oreilles, nos yeux, de bruits de distraction qui nous empêchent de voir le besoin spirituel de nos vies et de ceux autour de nous? Bon, nous avons besoin parfois de pleurer à cause du péché, afin que Dieu puisse agir dans nos vies. Et de même, est-ce que nous sommes ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent? Lorsque nous voyons des amis, des frères et sœurs en Christ, des proches qui sont dans le deuil, est-ce que nous pleurons avec eux, comme Jésus a pleuré avec ceux qui sont autour d'eux? Et puis, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de consolation? Est-ce que nous cherchons à réconforter ceux qui sont autour de nous? Alors, donner pas une espérance illusoire, mais une espérance qui vient de l'amour de Christ. Bon, ça, c'est ce que Dieu demande de nous. D'être des gens qui pleurent pour les bonnes choses dans la vie. D'être des gens qui pleurent avec ceux qui pleurent, mais qui consolent aussi ceux qui sont dans le deuil, avec ces paroles de Christ. Et n'est-ce pas extraordinaire de savoir que Dieu n'est pas indifférent aux problèmes, aux souffrances de ce monde? Il est un Dieu qui console, le Dieu de consolation. Paul parle souvent de ça, mais dans Romains 15, verset 5, j'aime bien ce passage qui dit que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Et nous avons un Dieu de consolation. La réalité, c'est que Dieu va consoler. Et les pleurs, le deuil et les larmes n'auront pas le dernier mot. Et j'aimerais terminer juste en lisant ce petit passage qui vient de la vision que Jean a, hein, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, dans Apocalypse chapitre 21, les versets 3 et 4. Il dit « J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »